Combien ce matin ont pensé à apporter leur Bible avec eux? Allez, levez les doigts. C'est très bien. Your Bibles. Très bien. Alors tous ceux qui ont leur Bible, s'il vous plaît, ouvrez votre Bible au début.
Pour ceux qui ne l'ont pas, il y en a en stock à côté de Joachim.
Voilà, il y en a encore d'autres là. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, au début du livre du prophète Amos. Le prophète Amos. Nous allons lire au cours de ce temps de message le premier chapitre et les trois premiers versets du second chapitre. Le début de cette prophétie. So, prophet Amos, we're going to read the first chapter and the first three verses of the second chapter. I'm afraid I won't be able to do a bilingual sermon because it would take too long. But I will be ready to explain anything you don't understand after. Parole d'Amos. L'un des éleveurs de Tekoa. Vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, de Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il donne de la voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil et le sommet du Carmel est desséché. Chers amis, il y a près de 2800 ans, l'Éternel, le Dieu de l'univers, s'est adressé à un berger, à un agriculteur qui habitait à 16 kilomètres au sud-est de Jérusalem, dans des terres qui réclamaient, comme la Provence d'aujourd'hui, la pluie, et qui n'était pas spécialisé, qui n'avait pas fait des études en faculté de théologie et qui ne fréquentait pas la cour de la famille royale à Jérusalem. Amos, croyant simple, croyant fidèle, voulant simplement obéir à son Dieu, croyant qui a reçu de la part de Dieu des visions. Dieu s'est révélé. Et ce croyant-là a su qu'il devait aller porter le message reçu à son destinataire. Et il se trouve que le destinataire était loin de chez lui, en tout cas pour lui à pied, hein, comme on ne voyageait pas vraiment très rapidement à l'époque. Le destinataire, c'était le peuple d'Israël. Lui, il faisait partie du peuple de Juda. Il devait aller en Israël au nord, à Bethel, s'adresser à Israël, s'adresser au roi d'Israël aussi. Le problème, c'est que nous sommes, à ce moment-là, vers 760 ans avant la naissance de Jésus-Christ, à une époque où on a des plus longs règnes d'Israël comme de Juda. Ozias a régné pendant 52 ans. Sur Juda, Jéroboam, le roi qui a duré le plus longtemps en Israël, où il y a eu beaucoup d'assassinats de rois. Lui est le petit-fils de Jéhu. Et il a régné très longtemps, plus de 40 ans. Et tous deux ont été épargnés, bénis par l'Éternel. Les frontières ont été consolidées et il n'y a pas eu de guerre. Les deux peuples se sont abstenus de se battre entre eux, Juda et Israël, et les ennemis sont restés à l'extérieur des frontières. Autrement dit, nous sommes dans un temps de prospérité. Israël et Juda ont une population riche et à l'aise à cette époque. Enfin, relativement, pas tout le monde, hein. Nous ne sommes pas dans un temps de crise. Et Amos est appelé à aller déranger le confort de ce peuple-là, notamment le peuple du Nord, Israël. Il est appelé à aller s'affronter à l'opinion générale. Il est appelé à aller renverser ce que nous, aujourd'hui, nous appelons le politiquement correct. Le problème, c'est que la vision qu'il a reçue, le message de Dieu n'est pas un message apaisant. Vous avez remarqué, j'espère, le verbe qui est utilisé dans le texte pour décrire ce message. Dieu rugit de Sion. Il donne de la voix. La conséquence de cette révélation-là, vous le voyez aussi dans ce deuxième verset, c'est le dessèchement. C'est le deuil. C'est le départ de l'abondance qui est remplacé par les larmes, par le deuil. Posez-vous aujourd'hui la question. Est-ce que je me porterai volontaire pour aller apporter un tel message à la mairie de Cavaillon ou à la Chambre des députés? Rassurez-vous. Amos non plus ne s'est pas porté volontaire. Il a été choisi. Dieu l'a appelé. Mais cet appel nous rappelle quelque chose. Cet appel nous rappelle quelque chose de très fondamental. Les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes que nous connaissons, dont nous connaissons les noms, Jérémie, Ésaïe, Osée, Daniel. Ces prophètes soulignent pour nous la responsabilité normale, oui, normale, de l'ensemble du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, au sein des nations païennes. Leur responsabilité, c'est de leur communiquer le caractère du Dieu trois fois saint. Leur responsabilité, c'est d'être le porte-parole, les porte-paroles de sa loi parfaite et de proclamer que le salut est de lui seul, nulle part ailleurs. Mais cette responsabilité prophétique d'Israël, soulignée par Amos et les autres prophètes, c'est aujourd'hui passé à l'Église. Car l'Église est le nouvel Israël, comme Paul l'explique bien plus tard, à la fin du deuxième chapitre de l'Épître aux Romains. Le Juif, dit-il, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. La circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Donc la question, la première question peut-être, de ce texte, c'est près de 2800 ans plus tard, sommes-nous prêts à être porteurs d'une telle vision, d'un tel message, à une époque, regardez autour de vous, regardons autour de nous, à une époque d'abondance, de confort personnel, qui ressemble finalement pas mal à l'époque d'Amos. Alors, nous allons écouter les premières proclamations de ce dernier, et comme le passage est un peu long, et comme nous avons besoin, nous, de nous rendre compte, eh bien, je vais demander à ceux qui ont la Bible de se lever et de lire quelques versets. Hein, tout seul, enfin, je ne vais pas forcer quelqu'un, hein, mais hein, je vais vous inviter. Alors, le premier passage est adressé à la Syrie. Donc, versets 3 à 5. Allez, Paul.
Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'ils ont écrasé Galad sous des traîneaux de fer, j'enverrai le feu dans la maison d'Azaël et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bikatanaben et les habitants de Beth-Eden et celui qui tient le sceptre, le peuple de Syrie qui sera exilé à Kir, dit l'Éternel.
Merci. La Syrie. Les différents noms propres ici font tous référence à Syrie et à ses rois, grands ennemis d'Israël et de Juda. Eh bien, après avoir lu cela, Paul, veux-tu imaginer, pouvons-nous imaginer un instant que Paul adresse ce message au commandant en chef des armées russes et ukrainiennes? Voilà, le Seigneur t'envoie. Eux aussi, sans doute, ont commis des atrocités de guerre dont il est question ici, dans ce passage. Nous ne savons pas, mais c'est possible. Deuxième passage. Qui veut lire le passage qui est adressé aux Philistins? Aux Philistins, à Gaza.
Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont déporté tout un peuple pour le livrer à Édom. J'enverrai le feu contre la muraille de Gaza, et il en dévorera les donjons. Je retrancherai d'Atsod tout habitant, et d'Ascalon, celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel.
Merci beaucoup. La Philistie, le pays des Philistins, est condamné comme la Syrie, aussi un grand ennemi d'Israël. J'ai oublié votre prénom, mais vous imaginez un instant que vous avez adressé ce message à ces passeurs de réfugiés qui, eux, trahissent, exploitent et vendent leurs passagers. Voilà, ils sont rassemblés dans un groupe et vous leur adressez cette parole. Troisième passage, à partir du verset 9.
Ainsi parle l'Éternel.
Oui, allez-y.
À cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont livré Édom tout un peuple. Ils ont livré à Édom tout un peuple de déportés sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu contre la muraille de Tyr et il en dévorera les donjons.
Merci beaucoup. Tyr au nord, cette fois-ci. On est reparti vers le nord et le crime est peut-être encore un peu plus grave. Ça ressemble beaucoup au crime des Philistins. L'esclavage, l'envoi d'un peuple en esclavage. Mais c'est encore plus grave puisqu'il y avait alliance entre Tyr et le royaume d'Israël. Et ils ont rompu l'alliance. Eh bien, vous êtes placé au sein d'un groupe d'organisateurs de réseaux de prostitution. Et vous leur adressez ces paroles. Les paroles adressées à qui ? Imaginons. Nous continuons. Au verset 11, qui veut lire à partir du verset 11 ?
Voici ce que le Seigneur dit, je lis dans la version parolée. J'ai beaucoup de crimes à reprocher aux gens d'Édom. Le plus grave est celui-ci. Ils ont poursuivi le frère d'Israël, l'épée à la main. Ils n'ont eu aucune pitié pour eux. Dans leur colère, ils ne s'arrêtent pas de tuer. Ils gardent une haine qui ne finit jamais. C'est pourquoi je ne changerai pas de décision que j'ai prise. Je mettrai le feu à la ville de Téman. Et il dévorera les belles maisons de la ville de Bosra.
Voilà, merci beaucoup. Alors, vous voyez où se trouve Édom. Édom, c'est au nord de l'Arabie Saoudite, ou au sud-est d'Israël. Actuellement, enfin, il n'existe plus. Et Édom était un peuple frère d'Israël. Son crime, donc, est d'avoir voulu constamment guerroyer contre son frère, ne jamais s'apaiser, vouloir se venger constamment. Eh bien, ce message, vous l'adressez aujourd'hui aux chefs de l'Hezbollah qui ont juré d'exterminer Israël et de ne pas se reposer tant que ce n'est pas fait. Est-ce qu'ils vont entendre? Cinquième passage. Qui lit le cinquième passage à partir du verset 13.
Voici ce que dit l'Éternel. À cause de trois crimes des Ammonites, même de quatre, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galad afin d'agrandir leur territoire, j'allumerai le feu dans les murs de Rabba. Il en dévorera les palais au milieu des cris de guerre, le jour du combat, au milieu de l'ouragan, le jour de la tempête. Et leur roi partira en exil, lui et ses chefs, avec lui qui est armé.
Le crime d'Amon. Grave aussi parce que Amon est aussi frère d'Israël, descendant de Lot, neveu d'Abraham. Peuple frère, mais peuple cruel qui veut agrandir son territoire, quel qu'en soit le prix, qui veut augmenter son compte en banque. Eh bien, Charles, tu vas dire ce message au ministre de la Santé, aux médecins et aux soignants des cliniques d'avortement en France. Est-ce qu'ils vont entendre? Et le dernier passage, qui lit le dernier passage des trois premiers versets du chapitre 2.
Et leur roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel.
De 1 à 3, hein, jusqu'au verset 3. À cause des crimes de Moab.
Chapitre 2, 1 à 3.
D'accord. Ainsi parle l'Éternel. À cause de trois crimes de Moab, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. J'en ferai le feu dans Moab, et il dévorera les palais de Kérishot. Et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre, et du bruit de la trompette. J'exterminerai de son sein le juge, et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel.
Le jugement tombe également sur Moab, également frère, autre descendant de Lot, frère, peuple frère. Et cette fois-ci, c'est intéressant, ça souligne peut-être le lien entre ces différents crimes. Là, c'est le corps de l'homme qui n'a pas été respecté, le crime qui est mentionné, c'est sans doute pas le seul, mais le crime qui est mentionné ici, c'est de ne pas respecter le cadavre, alors que le cadavre avait été l'habitation de l'âme que Dieu crée. Eh bien, imaginez un instant que vous allez dire ça dans les centres de recherche où on décortique et on dissèque les corps des enfants avortés. Est-ce que nous serions vraiment capables d'affronter les personnes que j'ai mentionnées pour leur annoncer le jugement de Dieu? Est-ce que nous sommes suffisamment même conscients que nous sommes appelés à vivre, nous, en tant que peuple saint, au milieu d'un peuple avec des lois iniques? Que nous sommes, comme Amos, peuple prophétique. Est-ce que nous devons aujourd'hui nous sentir coupables d'être les témoins trop silencieux des crimes inhumains qui ressemblent tellement à ceux qui ont lieu autour de nous aujourd'hui? N'oublions pas, chers amis, que l'avortement, l'euthanasie sont deux formes de meurtre légalisées. L'homosexualité avec toutes ses variantes, ce sont des péchés qui sont soulignés dans la Bible comme les péchés les plus condamnables. Pourquoi ? Parce que ils rejettent Dieu comme seul créateur, seule source et maître de la vie, ainsi que son ordre créationnel de reproduction de la vie par l'union d'un homme et d'une femme. Les autorités, les législateurs autour de nous sont donc certainement tout aussi condamnables que les nations accusées par Amos dans ce passage. Et ça signifie que nous devrions, nous, l'Église, au minimum, prier pour que le caractère atroce de ces péchés soit rappelé quotidiennement à ceux qui les commettent ou qui les autorisent. Néanmoins, chers amis, le message d'Amos n'est pas en premier lieu que Dieu veut inciter son peuple à s'acharner, par exemple, à occuper la cour de l'Élysée pour obliger le président à changer les lois iniques de notre pays, ou bien à entrer par force dans des réunions des trafiquants de drogue pour leur dire d'arrêter de détruire la vie de tant de milliers de jeunes. Peut-être que certains sont appelés à faire ça. Mais ce n'est pas ce passage d'Amos qui les y appelle. Nous n'avons dans ce passage, et je vous le rappelle, vous ne connaissez peut-être plus, vous avez peut-être un peu oublié l'histoire, nous n'avons aucune indication dans le livre d'Amos que le prophète se soit rendu à Damas, à Gaza, à Tyr, à Botra, à Arba, à Kériot, pour annoncer ces jugements dont il est porteur. Et il est très peu probable qu'il l'ait fait. Les prophètes de l'Ancien Testament, de façon générale, à l'exception peut-être de Jonas, étaient envoyés vers le peuple d'Israël premièrement. Et ce rappel du jugement de Dieu est un rappel adressé à Israël. Pour mieux saisir le vrai objet du message d'Amos, nous devons nous souvenir du but principal de la Bible. Et quel est le but principal de la Bible? Révéler Dieu. Comme Dieu seul peut se révéler, nous l'appelons toujours sa parole. C'est lui qui l'a donnée. Et il s'y révèle au moyen de sa création, dont il dirige l'histoire tout entière. Et il s'y révèle avant tout parce que le pasteur Pierre Courtial, le premier doyen de la faculté de théologie à Aix-en-Provence, aimait appeler sa loi évangile. Sa loi évangile. His gospel law. C'est-à-dire, en utilisant son plan de rédemption pour l'homme déchu. Amos est un simple croyant, mais il est fidèle. Et il est désigné par l'Éternel comme son prophète. Il participe donc à cette révélation. Et en lisant ce passage, nous devons, pour cette raison, nous demander d'abord qu'est-ce qu'il révèle sur notre Dieu, Créateur et Rédempteur. Et les détails des crimes atroces des nations autour d'Israël, et même l'ordre apparemment un peu étrange, selon lequel Amos passe ses nations en revue, ne doivent pas nous égarer. C'est Dieu qui se révèle à travers ses jugements. Tout d'abord, et ça a été dit dans la lecture du psaume au début de ce culte, Amos révèle que Dieu est un Dieu saint. Ce qui veut dire qu'il est offensé par tout mal, tout péché, quel qu'il soit, et particulièrement par les péchés qui portent atteinte à l'homme porteur de son image. De cette grande vérité-là découle une deuxième dans ce passage, c'est que le jugement universel est absolument certain et incontournable. Comme Paul le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, tous les hommes, toutes les femmes se trouvent coupables devant ce Dieu saint. Tous les hommes, toutes les femmes sont donc passibles de jugement. La troisième grande vérité, qui, comme la première, révèle la personne même de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu unique, qu'il est souverain sur l'univers tout entier. Il n'est pas souverain sur son Église uniquement, sur son peuple. Le fait que Tyr, Gaza, Damas et les autres nations mentionnées aient leur propre Dieu avec un petit dé ne change rien à cette réalité. Et cela était pour l'époque une déclaration absolument révolutionnaire. Dieu seul règne sur les hommes. Dieu seul juge les actions des hommes. On peut le lire dans 1 Samuel, chapitre 2 et verset 3. Et tous les Dagon, Molech et autres Baal du monde ne changeront rien à cela. Notre Dieu trinitaire juge les bouddhistes et les hindouistes. Il juge les musulmans et les animistes. Il juge les athées et les humanistes. Il y a un seul juge, comme il y a un seul sauveur. La proclamation de ce message-là est insupportable à tous ceux qui se sont donnés, car ils se sont donnés, une autre religion. Et cela explique sans doute pour nous la violence grandissante à l'encontre des vrais fidèles. Le peuple d'Israël connaissait cette vérité. Ils savaient, eux, que Dieu était Dieu de l'univers tout entier. Mais comme c'est peut-être le cas pour le peuple chrétien aujourd'hui, ce peuple d'Israël avait besoin que le prophète le lui rappelle. Si le Dieu des chrétiens n'est qu'un Dieu parmi d'autres dieux, le Dieu des musulmans, le Dieu des autres religions, eh bien, l'urgence de l'annonce de l'Évangile, l'urgence de vivre une vie différente, conforme à la parole de Dieu, cette urgence disparaît entièrement. Quant à l'homme, révélé aussi par ce passage, créé à l'image de Dieu pour être gestionnaire de sa création, pour refléter son caractère, ce passage rappelle qu'il n'a pas besoin de la révélation spéciale accordée à Israël pour reconnaître son péché. Les hommes de Gaza, les hommes de Damas, les hommes de Tyr, de Kériot, de Rabba, les hommes de Botra, ils savent qu'ils sont coupables. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que Dieu leur a donné une conscience. Eux aussi, ces hommes-là, sont faits à l'image de Dieu. Donc ils savent quand ils commettent le mal. La difficulté, c'est que l'homme fait tout pour étouffer la voix de sa conscience. Aujourd'hui, à l'époque moderne que nous vivons, eh bien, nous le voyons, n'est-ce pas ? Il y a de faux raisonnements. Il y a une fausse spiritualité. Il y a toutes sortes d'idolâtries pour remplacer la parole de Dieu et sa loi. Il y a même l'utilisation des drogues. C'est pour cela que la responsabilité du peuple de Dieu, c'est de réveiller cette conscience par le rappel du jugement inévitable à venir. Et c'est peut-être cette dernière vérité qui est un des enseignements les plus cruciaux du passage. Dans sa souveraineté, dans sa sagesse, Dieu commence la prophétie d'Amos par l'annonce du jugement. Plus tard, au cours du livre, que vous allez sans doute avoir ici, par la suite, eh bien, il sera question de pardon, il sera question de restauration, il sera question de salut, il sera question de grâce. Mais Dieu, créateur de l'homme, il connaît l'homme parfaitement. Il sait donc qu'il est inutile de proposer un sauveur à cet homme si c'est caché la réalité qu'il est en train de se noyer. S'il a oublié que lui, ou a étouffé la vérité, que lui, comme tout le reste de l'humanité, est assis dans le couloir de la mort, dont il ne pourra jamais, jamais sortir seul. Offrir la bonne nouvelle à celui qui a réussi à oublier qu'il est condamné, c'est vouloir vendre des doudounes sur les plages de Martinique. Amos ne commet pas cette erreur. D'ailleurs, c'est ce rappel clair et sans détour du jugement universel incontournable qui nous amène à une dernière, ou peut-être première, grande révélation de ce passage. Comme les autres prophètes, le rôle d'Amos est de préfigurer, de refléter, d'annoncer Jésus-Christ, prophète ultime. Les disciples avaient besoin que Jésus lui-même leur rappelle cette vérité, même après la démonstration incontestable de la crucifixion et de la résurrection. Alors Jésus leur dit, Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que dit, tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Les prophètes dans leur ensemble, et Amos ne fait pas exception, préparent la venue de Jésus-Christ. L'annonçons de diverses manières. Amos le révèle de plusieurs manières, que je ne vais pas vous détailler, parce que dans la suite de l'étude de ce livre, vous allez découvrir. Mais il commence par une série d'oracles de jugement que vous avez lus. Merci pour votre aide. Que vous avez lus. Et il commence par ces oracles de jugement exactement comme le Messie. Dont les premières prédications ressemblent exactement à celles de Jean-Baptiste et à celles d'Amos ici. Nous lisons par exemple la première fois que nous entendons une prédication de Jésus-Christ dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » La proximité du royaume des cieux signifie la proximité du jugement. D'où la nécessité de se repentir. De se repentir de son péché et de se tourner vers Dieu. Seule source de salut. Nous, chrétiens aujourd'hui, nous avons tendance à négliger, je trouve, la suite du passage le plus cité de la Bible. Charles, quel est le passage le plus cité de la Bible?
Jean 3,16 peut-être.
Hein?
Jean 3,16.
Tout à fait. Bravo Charles. Jean 3,16. Hein? Ce passage qui révèle l'amour sacrificiel de Dieu. Or, cette suite souligne que la sainteté de Dieu n'est en rien altérée par son amour sacrificiel. Que donc, sans la reconnaissance de son propre, de sa propre misère, reconnaissance qui permet d'ouvrir la porte à la vie éternelle, le jugement est certain. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est Jean 3,18. Lorsque le prophète Amos annonce, quelques 760 ans avant la venue du Messie, que à cause de 3 crimes et même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, il ne dit pas autre chose que le royaume des cieux est proche. Cette proximité correspondant en réalité à la certitude absolue. De même, en annonçant que le jugement est irrévocable, Amos annonce la même vérité que Jonas, qui a sans doute prêché à peu près en même temps que lui. Le salut appartient à l'Éternel. Pas de sortie, si ce n'est Dieu qui l'offre, qui l'effectue. Quant à Jésus-Christ, ne dit-il pas à ses disciples pour souligner encore cette vérité-là qui traverse à la fois son enseignement et sa vie? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que conclure pour nous? Eh bien, Amos est prophète. Israël est prophète. L'Église est prophète. Prophète de Dieu dans un monde d'incrédulité, un monde qui ne veut pas croire. Si l'Église est prête à abandonner les valeurs, le confort de son époque pour montrer par sa vie, autant que par ses paroles, que le jugement de Dieu est proche, que la repentance seule peut ouvrir la porte à l'action que Dieu seul, en Jésus-Christ, peut accomplir, alors la proclamation de la grâce pourra pénétrer les oreilles et des cœurs, provoquant ainsi les réjouissances au ciel que cette année qui s'ouvre à Cavaillon soit une année pour des réjouissances au ciel. Je vous invite à prier. Seigneur, nous reconnaissons qu'Amos avait une vie tranquille, sans doute une famille, travaillait sans doute dur, peut-être avait-il de bonnes relations avec ceux autour de lui, et tu lui as demandé de les quitter pour aller annoncer ton jugement, rappeler à ton peuple que tu es juge de toutes les nations, et que seul par la repentance et la foi en ton salut pouvait-il y avoir une vie éternelle. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que tu nous as donné le même message. Notre prière, c'est que tu puisses pardonner à nos faiblesses, nous exhorter, nous encourager, nous instruire afin que nous vivions davantage de manière à proclamer ce message. C'est par ton esprit seul que cela est possible. Travaille, nous te prions, notre cœur et notre vie, pour la gloire de Jésus-Christ et pour qu'il y ait des réjouissances au ciel lorsqu'un seul pécheur se tourne vers toi, se convertit. En ton nom, Seigneur. Amen.